Vous êtes bien sur Radio Orient, votre émission plurielle. Notre invité, Daniel Simonet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de Paris, élue dans le 20e arrondissement. Vous êtes la cofondatrice de l'Après. Alors l'Après, c'est un mouvement créé par d'anciens cadres, anciens élus de la France insoumise. Merci d'être avec nous. Tout simplement, à 8 mois de l'élection présidentielle, quel type d'union vous souhaitez aujourd'hui à gauche ?
Bah écoutez, nous, vous savez, l'Après, on s'est constitué, certes, après une purge de la France insoumise.
Mais une purge, pour, purge.
Exactement. Mais parce que, en fait, il nous semble essentiel de contribuer à l'unité de la gauche face à la menace du Rassemblement national. Là, Marine Le Pen, elle peut prendre le pouvoir dans ce pays. Il ne faut pas croire que ça va être une alternance, finalement, un mauvais moment à passer, puis peut-être qu'à une prochaine échéance électorale, on pourra reprendre la main. Je veux dire, laisser l'extrême droite prendre le pouvoir en France serait catastrophique. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il prévoit un coup d'État institutionnel à travers leur référendum sur l'immigration. J'espère qu'on pourra y revenir.
On y reviendra,
et donc,
bien entendu,
pour pouvoir
dans cette
empêcher
juste
l'extrême droite
vous
de gagner, il faudrait que la gauche soit unie.
Vous dites que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, elle ne part pas. Si on regarde ce qui s'est passé en Europe, il y a bien entendu l'exemple de Viktor Orban qui est parti après avoir perdu les élections législatives.
On y reviendra tout à l'heure, oui. Mais ce qu'ils veulent faire à travers leur référendum soi-disant sur l'immigration est un référendum constitutionnel qui veut nous faire basculer d'une république à un régime illibéral, xénophobe, autoritaire et identitaire. Donc c'est des conséquences extrêmement graves. C'est pour ça que nous, on a essayé de tout faire pour qu'il y ait une candidature commune de la gauche. On a œuvré pour dire qu'il faudrait des primaires de toute la gauche sur la base d'un programme radical. Ce qu'on était capable de faire à travers les accords législature de la NUPES en 2022, du nouveau Front Populaire en 2024, on devrait être capable de le faire aujourd'hui.
Pour le moment, il n'y en a pas. Il y aura une primaire au Parti Socialiste.
Oui. L'AFI a refusé, le Parti Socialiste aussi, et ils vont faire une petite primaire dans un autre périmètre politique, puisqu'ils le font avec Glucksmann de Place Publique, à 15 € l'inscription à la primaire. Ça va autre chose, voilà. Et quelque part, on sent que les nostalgiques des années Hollande sont en train de revenir. Nous estimions que le scénario, finalement, de deux gauches qui seraient irréconciliables, finalement, c'est la garantie pour l'extrême droite de l'emporter. Alors que les électeurs, eux, ne sont pas irréconciliables. Et ils aspirent tous, en grande majorité, à une candidature commune. Parce que tout le monde comprend bien que c'est si on est tous rassemblés qu'on peut espérer et bien être présent au deuxième tour.
Mais il y a Jean-Luc Mélenchon qui grimpe dans les sondages. Il arriverait au second tour face à Marine Le Pen.
Déjà, ça serait une bonne nouvelle, parce que je voudrais vous rappeler que les deux prochaines précédentes élections présidentielles, nous n'avons pas été présents au premier tour des élections présidentielles. Enfin, vous savez comme moi que les choses peuvent évoluer, que quand il va y avoir la primaire, la petite primaire socialiste, il va y avoir beaucoup de batailles médiatiques autour de cela, donc ça peut aussi faire évoluer les scores des uns et des autres. Moi, ce que je dis, c'est que si M. Mélenchon est en tête pour l'instant, qu'il donne à ce moment-là des signes qu'il est prêt à se dépasser, à ouvrir largement, à chercher des partenaires qu'il respectera, parce que seul il ne peut pas gagner. Il peut faire un bon score au premier tour, mais gagner au deuxième tour, alors que son plafond de verre ne cesse de baisser, qu'il y a des sondages qui montrent même qu'il fait partie des personnalités des Français les plus détestées. Il faut absolument qu'il réoriente sa campagne pour montrer qu'il est en capacité de rassembler, de ne pas être le solitaire sectaire, et de montrer qu'il est à la hauteur des enjeux, ce qu'aurait fait un Mitterrand, lui qui prend souvent Mitterrand comme référence. Et moi, je suis très inquiète, parce que pour l'instant, il donne lorsque vous avez des personnalités comme Sandrine Rousseau ou comme Marine Tondelier qui envoient des gestes, eh bien, grosso modo, il dit, et puis il le dit pareil pour le NPA, vous prenez mes affiches, vous les collez, vous prenez mes tracts, vous les distribuez. En gros, c'est ça ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à rassembler, à fédérer. Or,
sachant que
si on veut la gagne...
Oui, mais justement, ces personnalités se rallieraient à lui s'il arrive au second tour. Vous, par exemple...
Je vais vous dire une chose.
Vous
regardez les élections. Regardez les élections municipales. Les élections municipales, nous, on a plaidé pour qu'il y ait des listes de rassemblement les plus larges possibles. Bien. Et on voit que les alliances de deuxième tour, c'est-à-dire à l'arrache, quand il ne reste plus qu'une semaine, bon, pour la présidentielle, il peut rester 2 semaines, ça n'entraîne pas la même dynamique et que vous perdez beaucoup d'électrices et d'électeurs en route. Alors que si vous créez un cadre unitaire bien plus en amont, vous pouvez non seulement rassembler tout votre camp pour être assuré d'être au deuxième tour, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui, mais surtout être en capacité après d'aller au-delà dans la captation de la confiance du peuple français pour pouvoir empêcher Marine Le Pen de l'emporter. Donc, un peu d'humilité de la part de Mélenchon qui aujourd'hui est en tête. Si c'était un autre qui était en tête, je dirais la même chose.
On comprend, non, nous grosso modo, Daniel Simonet, c'est important de parler du fond, du programme.
Moi, je suis attaché au programme du Nouveau Front Populaire et du programme du NFP.
Et donc du programme de la France Insoumise.
Donc, le programme, j'étais à la France Insoumise, j'ai participé à ce programme.
Et donc, vous voteriez Jean-Luc Mélenchon.
Ah, moi, j'assumerai toujours mes responsabilités pour empêcher l'extrême droite de l'emporter. Voilà. Donc, si c'est le butin de vote de Jean-Luc Mélenchon qui est le plus efficace, je le prends sans problème. Par contre, je dis, si on veut gagner, Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin de personnes qui sont ralliées à lui. Il a besoin de partenaires respectés.
Jean-Luc Mélenchon, que vous qualifiez de harceleur moral.
Un président
de la République harceleur moral, alors, c'est pas un problème.
J'ai énormément de désaccords et j'ai énormément de sujets sur lesquels j'ai subi le dysfonctionnement interne de la France Insoumise dont Jean-Luc Mélenchon est directement responsable. Et pour autant, je sais ce qui se présente face à nous. Moi, je ne vais pas regarder droit dans les yeux mes enfants, mes petits-enfants, en leur disant « bah ouais, j'ai laissé l'extrême droite prendre le pouvoir ». Comment je pourrais regarder en face les personnes en situation administrative irrégulière, les personnes qui veulent faire le regroupement familial parce qu'ils veulent que leur famille soit réunie, les personnes qui sont victimes des LGBT-phobies, comment je vais les regarder en face avec une extrême droite qui arriverait au pouvoir parce qu'on n'aura pas été capable de se rassembler?
Donc vous lui faites confiance politiquement.
Ça n'est pas une confiance.
C'est le message.
Ça n'est pas une confiance. J'ai des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, mais j'assume mes responsabilités. J'utiliserai toujours le meilleur butin de vote le plus utile pour empêcher l'extrême droite de passer. Et je dis à toutes celles et ceux qui ont de bonnes raisons d'être en désaccord ou d'être fâchés, de se dire, il faudra qu'on regarde la situation. Elle peut évoluer, mais il faudra que chacune et chacun en prenne nos responsabilités, premier tour et deuxième tour, pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir.
Jean-Luc Mélenchon, qui à chaque présidentielle gagne des points au fur et à mesure de la campagne. Là, il est beaucoup plus haut pour le moment qu'il y a 5 ans.
Ouais,
écoutez,
vous savez, Marine Le Pen, en 2022, elle faisait dans les 22%. Là, aujourd'hui, elle est testée à plus de 30, entre 30 et 35. Mélenchon, il avait fait 21,5.
Et il était
testé
à environ 10, 11.
D'accord, il avait fait 21,5 et il est testé aujourd'hui entre 14, 15. C'est pas glorieux.
Il est testé au-dessus des autres, il arrive second après Marine
Le
Pen.
Mais c'est pas glorieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas une garantie absolue d'être présent au deuxième tour. La gauche va-t-elle être à nouveau éliminée du deuxième tour? Et si elle ne l'est pas, bonne nouvelle, sera-t-elle en capacité de battre Marine Le Pen? On est face à l'histoire. L'histoire nous regarde. On sait qu'une posture solitaire, sectaire, ça ne marche pas. Il faut absolument que les candidats qui veulent prétendre à la présidentielle soient en capacité de rassembler. Mais moi, après, je sais d'où je parle. Je parle d'une gauche qui a su défendre une orientation radicale, s'attaquer à la racine des problèmes. C'est pour
et
ça
une
que
gauche qui combat l'extrême droite, le Rassemblement National,
oui,
vous l'avez dit,
et qui se retrouve dans le programme unitaire du NFP.
L'immigration, s'il arrive au pouvoir, dans ce référendum, il y aurait, c'est ce qu'a affirmé récemment Jean-Philippe Tanguy, la question du port du voile islamique dans l'espace public. Vous vous opposez, bien entendu, à cela, et vous estimez que nous entrons dans ce cas, dans un régime que vous qualifiez d'illibéral?
Oui, alors déjà, quelque part, il y a presque deux sujets. Il y a cette rentrée où, alors que la préoccupation des gens, c'est est-ce que l'été prochain, les pouvoirs publics vont être capables de mieux préparer la future canicule? Est-ce qu'ils seront enfin capables d'acheter les canadaires pour qu'on puisse arrêter les incendies? Est-ce qu'enfin on va pouvoir remplir son caddie avec des fruits et légumes alors qu'on n'aide pas l'agriculture bio, circuit court, nos paysans? Enfin bref, il y a des tonnes de sujets. Est-ce qu'on va enfin augmenter les salaires pour qu'on sorte un peu la tête sous l'eau? Non, l'extrême droite fait sa rentrée sur la question de l'interdiction du voile, sans donner par ailleurs de capacité à discerner est-ce qu'on va mettre une amende à une bonne sœur ou est-ce qu'on va le faire simplement par racisme pour les femmes de religion musulmane. Vous voyez bien que tout cela n'a rien à voir avec notre République.
Combattre le fondamentalisme
mais
islamiste.
Ça n'a rien à voir avec notre République. Des femmes peuvent porter le voile sans avoir une kalachnikov sous leurs vêtements.
Le voile
voilà,
qui n'est interdit dans aucun pays. Hein. C'est important
aucun pays,
de le souligner.
Donc, je veux dire, on serait tout aussi totalitaire que les pays qui l'obligent. Voilà, moi, il n'y a pas de police vestimentaire. Laissez tranquille les femmes. Maintenant, il parle de la Constitution. Et là, c'est intéressant parce que figurez-vous, quand le Rassemblement National dit qu'ils veulent changer la Constitution et qu'ils veulent mettre ça dans la Constitution, l'interdiction du voile, et qu'ils ont prévu un référendum sur l'immigration, eh bien, je suis allée regarder leur texte. Et d'ailleurs, vous avez un auteur qui s'appelle Jean-Yves Bocquet, qui a sorti dans les éditions Gallimard, dans la collection Tract, un ouvrage où il montre bien l'analyse du texte qui a été déposé à l'Assemblée nationale et qui s'appelle « Citoyenneté, identité, immigration », ce texte du Rassemblement national est très grave. C'est pas simplement un référendum, et c'est pas un référendum, entre guillemets, pour transposer, pour adopter un projet de loi. C'est en fait un référendum qui va modifier la Constitution de fond en comble, puisque vous avez bon nombre d'articles qui vont être concernés. Hein. Il y a 18 articles qui vont être modifiés et 7 articles nouveaux qui vont être ajoutés. Déjà sur la méthode, ils vont utiliser l'article 11 de la Constitution pour imposer ce référendum. C'est totalement illégal. Puisqu'en fait, avec l'article 11, normalement, vous ne modifiez pas la Constitution. La seule voie que notre Constitution prévoit pour sa propre modification, c'est l'article 89, qui exige un préalable que soit voté à l'Assemblée nationale et au Sénat de façon conforme les changements constitutionnels, avant ensuite d'être ratifié soit par les 3/5 du Congrès, soit par un référendum. Donc déjà, le référendum est illégal. C'est déjà un coup de force institutionnel au mépris de la Constitution. Et ensuite, quand ils modifient la Constitution, ils font quoi ? Il y a des mesures. Alors, remise en cause du droit du sol, interdiction au regroupement familial. Il n'y a plus aucune régularisation. Elles se font par décret à la sortie du Conseil des ministres. Vous avez une restriction terrible du droit d'asile. Mais vous avez aussi la xénophobie d'État. On va inscrire dans la Constitution la priorité nationale. Ça veut dire que pour tout emploi, pour tout logement, ce sera la priorité aux Français. Mais ça veut dire une obligation pour les employeurs ou les propriétaires de louer prioritairement aux Français contre les étrangers. Donc on inscrit la discrimination comme la norme absolue.
Et si le Front National est si haut aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, c'est notamment parce que ce qu'il propose sur l'immigration est populaire chez une partie du peuple français.
Sauf que c'est complètement...
Alors, une question d'Alain Simonet. Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer ou répondre au Front National sur d'autres sujets, des sujets qui sont peut-être moins bien maîtrisés par ce parti ?
Ce qui est intéressant, c'est que quand même, c'est de leur montrer que tout ça est un gros pipeau absolu en termes par rapport à leurs ambitions, parce que dans ce texte de loi, il n'y a rien qui va réduire les flux migratoires sur lesquels ils créent un fantasme obsessionnel. Parce que la seule chose qu'on va créer, on va créer plein de personnes en situation administrative irrégulière. C'est tout ce qu'on va faire. On va faire en sorte que plein de personnes qui sont françaises parce que nées en France de parents étrangers vont tout d'un coup se retrouver étrangères. On va fabriquer des étrangers. Mais on va absolument pas rien résoudre. Par contre, dans leur constitution, ils mettent en place l'inversion de la hiérarchie des normes entre la constitution et les traités internationaux. Mais moi, je vous donne des exemples, par exemple, de travailleurs qui avaient réussi à plaider au prud'homme en invoquant les traités européens de l'Europe sociale pour pouvoir dire, ben voilà, c'est pas possible, mes congés, je n'ai pas le droit de les perdre parce que je suis en arrêt de travail.
Bon, et c'était arrêts de travail,
en, des textes internationaux,
s'il vous plaît.
Tous les travailleurs français vont perdre avec ce changement constitutionnel.
Justement, Daniel Simonet, il nous reste moins de 5 minutes. Sur la question de la santé, des arrêts maladie, le gouvernement veut réduire les dépenses liées aux arrêts de travail et renforcer leur encadrement, mais les arrêts maladie augmentent aussi avec les problèmes de santé mentale, les conditions justement de travail et le vieillissement de la population. Est-ce que la France a d'abord un problème d'arrêt maladie ou un problème de conditions de travail ?
Alors, elle a un problème de conditions de travail, bien évidemment, puis c'est quand même du foutage de gueule, parce que c'était une branche excédentaire, hein, accident du travail, maladie professionnelle, sauf qu'au moment de la bataille des retraites, ils ont exonéré un certain nombre de cotisations patronales, donc ils ont créé un trou. Et qu'est-ce qu'ils font pour combler le trou ? Ils vont pas voir le MEDEF pour dire, bon, faudrait peut-être rendre l'argent. Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre dans les poches des travailleurs en réduisant les indemnités. Donc déjà, c'est un vrai scandale. Et surtout, prenons conscience que s'il y a une augmentation des accidents du travail qui nous placent très très mal. Hein. On est vraiment les derniers, ou plutôt les premiers, là où le pays où il y a le plus d'accidents mortels. Le travail tue aujourd'hui. Il faut savoir que vous avez 2 personnes par jour qui meurent au travail. Donc on est finalement assez proche du nombre de personnes qui perdent la vie par homicide. Pourtant, quand on parle de sécurité, on ne parle jamais du danger du travail. Il n'est pas acceptable que le travail tue, que le travail bousille la santé des travailleurs.
Vous dites
travail,
c'est une généralité. Il y a des accidents du travail mortels.
Cela
ne veut pas
augmente.
Dire que le travail tue. Oui.
Tout le travail ne tue pas.
Voilà.
Mais quand vous avez 2 personnes par jour qui meurent à cause du travail, il faudrait peut-être en faire un sujet de sécurité au moins aussi important que les morts par homicide. Or, aujourd'hui, tous les discours sur la question de la sécurité ne parlent jamais du travail. La question du travail est une question de santé publique extrêmement importante. Et il est tout à fait possible, si vous redonnez des droits aux salariés, si vous restaurez les CHSCT, les conseils de hygiène, et santé, sécurité au travail, c'est-à-dire que si vous donnez la possibilité aux travailleurs de prendre possession de l'organisation de leur travail, vous verrez que vous réduirez à la fois les accidents du travail, les maladies professionnelles, parce que les travailleuses et les travailleurs savent comment prendre soin de leur santé, au lieu de leur imposer des managements toxiques, ou bien de décadence infernale ou des situations de sous-effectifs.
Voilà, ce sont ces sujets que vous souhaitez mettre en avant sur le budget 2027, la question des niches fiscales. Est-ce qu'il faut remettre en cause aujourd'hui certaines niches fiscales et lesquelles vous supprimeriez si vous arriviez au pouvoir ?
Oh bah écoutez, vous savez, la question de la redistribution des richesses, elle est toujours d'actualité. Mmh. Aujourd'hui, ceux qui ont le plus, on leur prend le moins. Donc, il faut absolument être capable de remettre en place l'impôt sur la fortune. Remettre en place une taxe Zuckmann, 2% du patrimoine, c'est quand même la moindre des choses. Il faut aussi reposer la question des héritages, parce que les héritages des très grosses fortunes, eh bien, aggravent la reproduction des inégalités.
Qu'est-ce qu'une très grosse fortune ?
Bah écoutez, ça, ce
non,
sera...
À partir de combien il faut taxer davantage les
écoutez,
héritages
aujourd'hui, je crois que c'est à partir de 100 000 euros par personne où il n'y a pas de taxation. Bon, mais aujourd'hui, vous voyez bien que quand on a abordé la question de la taxe Zuckmann, on était sur des grosses fortunes de multimillionnaires. Mmh. Et même ça, c'était trop pour le pouvoir en place d'exiger des millionnaires, des multimillionnaires de participer. Je veux dire, moi, j'estime qu'il y a quand même un débat à avoir avec l'ensemble de la population parce que ça n'est pas possible.
Donc, davantage de taxes pour ces personnes, davantage également de barèmes pour les impôts. Il y en a 5 aujourd'hui en France. Vous plaidez pour qu'il y en ait beaucoup plus ?
Mais en fait, c'est cette question en fait, de l'augmentation des barèmes, ça permet en fait, de beaucoup mieux lisser. Parce que si de 5 tranches, vous passez à 13 tranches, je crois, ça permet de lisser beaucoup plus les choses. Parce que vous voyez bien que d'une tranche à une autre, le niveau des revenus n'est pas du tout le même. Et vous avez pas mal de personnes qui se situent entre guillemets ce qu'on appelle classe moyenne, ce qui ne veut pas dire grand-chose par ailleurs, mais qui peuvent basculer d'une tranche à une autre,
ce que vous dites,
ça serait beaucoup plus juste.
Mais je vais vous dire en tous les cas,
Ce qui est vrai en tous les cas, c'est que la politique de l'offre qui visait de la part de la Macronie de dire... On protège les riches, on ne les taxe pas. Et de fait, il va y avoir un ruissellement. Et de fait, vous allez voir, ça va permettre de profiter à tout le monde. Bah, écoutez, le ruissellement, il va toujours dans les poches des mêmes.
Et on a compris votre vision de la société. Un très grand merci, Daniel Simonet, d'avoir été l'invité de cette émission plurielle. Je rappelle que vous êtes député de Paris, élu dans le 20e arrondissement de Paris. Vous êtes la cofondatrice de l'Après, exactement. Hein, ce parti créé, vous l'avez dit, par les personnes qui ont été... Purgé, c'est le mot que vous avez employé par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, pour qui vous seriez tout de même prête à
Alors,
voter.
Alors, la décision dans l'après n'a pas été prise. Moi, je ne parle qu'en
vous,
montant.
À titre personnel,
je veux lutter contre l'extrême droite.
L'union, mais s'il n'y en a
Donc,
pas,
je
voterai pour lui.
Je souhaite lutter, mais j'aimerais bien qu'il y ait une culture beaucoup plus unitaire, parce que sinon, on va droit à la catastrophe.
Merci beaucoup.
Merci
à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.